Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Dans cette septième causerie, nous sommes vraiment au cœur de l'enjeu principal de l'encyclique Humanae Vitae, et qui a suscité tant de débats, tant d'incompréhensions. J'ai intitulé cette septième causerie « Sens spirituel de la distinction entre contraception et méthode dite naturelle ». Donc j'ai mis « sens spirituel » parce que les opposants à cette encyclique ont argumenté en disant au fond, cette encyclique, elle se soumet simplement à des rythmes biologiques qu'il faut le respecter, et donc elle n'a pas un sens authentiquement spirituel. C'est de la gynécologie morale ecclésiastique. ça n'a pas une portée vraiment spirituelle. Donc, sens spirituel de la distinction entre la contraception et les méthodes qu'on appelle assez souvent méthodes naturelles, mais je vous ai déjà dit que je n'aime pas trop cette expression et vous comprendrez pourquoi. Alors je vous parle de cela tout d'abord à partir de mon petit livre « Ton corps pour aimer » que j'y emploie une langue plus simple. J'ai écrit ça pour des jeunes, donc j'ai écrit ça dans une langue plus simple que celle de l'encyclique. Donc je pars tout d'abord de ce texte, de mon livre « Ton corps pour aimer ». Et puis après, nous lisons avec un plus grand profit, je pense, le texte même de l'encyclique. Donc comme il y a dans le titre « Sens spirituel de la distinction entre contraception et méthode naturelle », tout d'abord, un mot sur ce qu'on entend par moyen contraceptif. Alors, il y en a de tous les genres. Tout d'abord, la conscience chrétienne, et je pense une conscience philosophique dûment éclairée, rejette comme moyen de parenté responsable l'avortement. Que là, il s'agit pas de contraception, mais de faire mourir un enfant déjà conçu. Mais la morale chrétienne est également, mais aussi sur le plan philosophique, on peut tenir le même discours, elle est radicalement négative à l'égard de la stérilisation volontaire, soit par la ligature des trompes, c'est la plus fréquente, qui se pratique sur le corps féminin, ou par la ligature des canaux déférents, ça, c'est sur le plan masculin, mais généralement les hommes s'arrangent pour que ce soit plutôt les femmes qui subissent ce genre d'opération, de stérilisation temporaire, récupérable, pas irréversible, ou bien de stérilisation le plus souvent définitive. Pourquoi ce rejet ? Parce que la stérilisation exprime la volonté claire, délibérée, de dissocier à long terme l'amour sexuel, l'amour incarné dans la chair, et de toute ouverture, même simplement possible, à la fécondité. C'est radicalement exclu. Donc volontairement, on prive l'amour conjugal d'une de ses dimensions, l'ouverture au don de la vie. Le débat est plus complexe quand il est question des autres méthodes de régulation des naissances, et qu'on doit alors faire la distinction entre les méthodes contraceptives et justement les méthodes qu'on appelle souvent artificielles, mais je n'aime pas trop ce mot-là. Donc la distinction entre les méthodes artificielles ou contraceptives d'une part et les méthodes naturelles d'autre part. Donc, souvent on oppose les deux, d'une part méthode artificielle ou contraceptive, et d'autre part les méthodes dites naturelles. Et l'Église, clairement, dans Humanae Vitae, réprouve les premières, les méthodes artificielles ou contraceptives, tandis qu'elle déclare légitime, à certaines conditions, le recours aux secondes, les méthodes dites naturelles. Alors, tout d'abord, quelques questions de vocabulaire. Par méthode artificielle ou contraceptive, eh bien, il faut entendre toutes les méthodes qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent activement, c'est ce qu'il faut souligner, qui interviennent activement dans le déroulement de l'acte conjugal, soit avant, soit pendant, soit après, en vue de le rendre infécond. Donc toutes les méthodes qui interviennent dans le processus, qui interviennent activement dans le déroulement de l'acte conjugal, avant, pendant ou après, en vue de le rendre infécond. Il peut s'agir de moyens mécaniques, comme les préservatifs masculins et aussi des préservatifs féminins, mais pour le coup, c'est plutôt les préservatifs masculins qui sont utilisés généralement. Les moyens chimiques, les crèmes spermicides, les crèmes qui font mourir le sperme, les spermatozoïdes, les moyens physiques comme le stérilet, mais le stérilet, je vous l'ai déjà dit, a surtout un effet abortif en empêchant la nidation d'un ovule déjà fécondé. Ou, et c'est surtout c'est le moyen le plus employé, les moyens hormonaux, donc des pilules. Encore que la plupart des pilules aujourd'hui ont un effet abortif complémentaire. Donc il y en a encore quelques-unes qui sont uniquement contraceptives, mais beaucoup ont un complément qui permet que si malgré tout il y a eu une fécondation, que l'embryon ne puisse pas se loger dans l'utérus, se nicher dans l'utérus et donc périsse. Tandis que les méthodes qu'on appelle naturelles, non contraceptives, ce sont des méthodes qui n'interviennent pas activement dans le processus, mais qui consistent à connaître, la différence entre intervenir activement et connaître. Elle consiste à connaître, repérer les périodes fécondes et infécondes dans le cycle féminin. Il y a un minimum de jours, c'est une minorité de jours dans le cycle menstruel où une femme est féconde et dans la plus grande partie du temps, elle ne l'est pas. Mais les jours où elle est infécondes sont un peu élastiques. C'est pas nécessairement 5 jours ou 6 jours ou 7 jours. Ça dépend un peu de la constitution individuelle de la personne. Et donc, ces méthodes non contraceptives consistent à connaître le mieux possible les périodes fécondes et infécondes afin de limiter les rapports sexuels aux seules périodes infécondes. C'est ça la manière d'envisager la parenté responsable. Si nous devons éviter d'avoir un enfant, eh bien, on cherchera à n'avoir de rapport intime que pendant les jours où la femme n'est pas féconde. On n'intervient pas, on ne bouleverse pas le processus lié à l'acte conjugal, mais on essaie de connaître les jours où la femme n'est pas féconde. La toute première méthode a été mise au point, mais il y a déjà des années, ça existait déjà du temps de ma mère, la méthode Ogino, mais qui était fort approximative et qui a donné naissance à pas mal d'enfants bien portants, parce qu'elle était trop peu précise. Elle marchait dans un certain nombre de cas, mais avec quand même beaucoup d'échecs. La méthode dite des températures, qui si on emploie seule, uniquement, voir la variation de température du corps féminin, ça exige, car c'est encore très imprécis, un long temps de continence, ou alors des méthodes plus modernes, très modernes même, qui ont été mises au point à notre époque par des centres universitaires, spécialement par des universités anglaises et des universités allemandes, qui ont pris la peine d'étudier cela, ce que font rarement des centres universitaires, et qui ont mis au point une méthode qu'on appelle des indices combinés, qui conjuguent plusieurs révélateurs de l'état où se trouve la femme dans son cycle. Bon, l'idéal, quand je faisais exposer cela pour des jeunes à l'université, une soirée d'information, évidemment, c'est pas moi qui faisais l'information, je demandais à des médecins ou à des personnes, des moniteurs, des monitrices enseignant ces méthodes, de faire l'exposé. Moi, j'introduisais sur le plan moral ou théologique, et puis je laissais. Et donc, moi, je ne vais pas entrer non plus dans les détails ici, parce que ce n'est pas mon job. Mais vous pouvez trouver des personnes qui sont tout à fait au courant de cela et qui peuvent vous en expliquer tout le fonctionnement dans le détail. Moi, je me limite, bien sûr, à des généralités. Quand on parle d'une méthode avec indices combinés, on parle d'une part, on parle de quatre repérages qui sont, il faut le reconnaître, au début un peu exigeants, parce qu'il faut que la femme, accompagnée de son mari, s'observe, apprenne à connaître son corps. Il y a un calcul de calendrier, et si on pratique le calcul du calendrier de cette femme-ci pendant des mois et des mois, on a une sorte de moyenne du fonctionnement mensuel d'une femme. L'observation de la température, qui reste intéressante, mais pas elle seule suffisante. L'observation du col de l'utérus, donc il faut que la femme se touche de manière à sentir le degré d'ouverture, de fermeture du col de l'utérus, et aussi l'observation de la glaire cervicale. La glaire qui est proche donc du col de l'utérus et qui, dont la densité varie suivant le cycle féminin. Donc quand, au début, ça gêne un peu une femme de s'observer comme cela, mais ceux qui pratiquent cela, et les spécialistes, je les ai entendus expliquer que, au bout de certains temps, ces observations deviennent moins gênantes parce que la femme finit par connaître son corps, sentir son corps. Et ces observations peuvent devenir alors plus légères, plus discrètes, moins fastidieuses qu'au début. Et moi, j'ai entendu des médecins qui ont, un couple de médecins qui ont pratiqué ces méthodes d'indices combinés et qui parvenaient à les expliquer bien clairement dans des populations incultes, notamment à Madagascar, dans les couches populaires où les gens ne sont pas très formés intellectuellement, ne connaissent peu de choses en sciences, en biologie, et ça marche, on parvient avec des moyens pédagogiques de leur faire apprendre ces observations, à les pratiquer, et ça réussit. Dans beaucoup de pays du tiers-monde ou bien de les pays émergents, je pense par exemple à Mère Teresa de Calcutta, elle enseignait la méthode Billings, qui elle repose uniquement sur l'observation de la glaire cervicale. C'est efficace dans beaucoup de cas, mais pas tout à fait suffisamment, quand on manque les trois autres observations complémentaires. Disons, c'est une méthode satisfaisante dans des pays où le taux de fécondité d'une femme est de 7, 8, 9, 10 enfants, avec une simple méthode Billings, on pourra réduire déjà. Si le couple le souhaite, il y a moyen de réduire. Mais dans les pays occidentaux, où on a une culture scientifique largement répandue, là on exige des méthodes qui soient plus fines, qui soient, vous voyez, pas trop souvent un échec. Et les méthodes auxquelles je fais allusion, qui ont été mises au point par des universités britanniques et allemandes, sont des méthodes qui ont un indice de Pearl. Pearl, c'est un mot anglais, P-E-A-R-L, pour mesurer une probabilité de réussite d'une méthode. Eh bien, elles ont un indice de Pearl qui est égal, et même parfois supérieur, à la contraception hormonale, parce que celle-ci connaît aussi des échecs. Échecs tout d'abord parce que on a oublié un jour ou bien parce que même quand on prévoit maintenant des moyens contraceptifs qui sont permanents, qui libèrent chaque jour la dose qu'il faut d'hormones pour... Même alors, il y a de temps en temps un échec. Parce qu'il n'y a aucune méthode qui est efficace à 100%. Eh bien, l'indice de Pearl, des méthodes, d'indices combinés, il est comparable et même supérieur à celui de la contraception hormonale. Voilà pour ce qui est en jeu quand on parle de contraception. Si maintenant nous abordons bientôt la question des méthodes non contraceptives, petite remarque préalable, c'est que ce qui distingue les unes des autres, c'est, j'y ai insisté déjà, c'est la méthode employée, le moyen employé. Et en morale, c'est important, ça ressortit à l'objet moral, le moyen qu'on emploie. Le moyen employé dans la contraception, c'est une intervention active. Le moyen adopté dans les méthodes non contraceptives, c'est la connaissance. On connaît les jours où la femme est féconde. C'est très différent. Même si le but, en un sens, est le même. Le but, c'est éviter une grossesse si elle n'est pas désirable. Le but est le même, avec ces différences cependant que les méthodes dites naturelles sont très utiles aussi pour avoir le plus de chances d'avoir un enfant. Quand des gens cherchent à avoir un enfant, eh bien ils ont intérêt à connaître les méthodes naturelles qui vont leur dire, voilà, au cours du mois, les jours à privilégier pour les rapports intimes, si on veut avoir un enfant. Ça peut servir dans les deux sens. Tandis que la contraception, elle ne sert qu'à exclure une naissance. Enfin, il faut rappeler un principe de morale que je n'ai pas touché ce matin. C'est que, donc, il y a trois facteurs de la moralité. Il y a l'objet moral, il y a les circonstances et il y a le but. Mais il arrive régulièrement qu'un acte qui est, du point de vue objectif, moralement acceptable, ne le soit pas en raison de l'intention. J'essaie de trouver un exemple. Voilà. Si un conférencier comme moi maintenant cherche à faire des exposés très clairs et très brillants, non pas par souci pédagogique, mais pour épater la galerie, afin d'avoir une belle réputation, qu'on le félicite, qu'on l'encourage, qu'on fasse sa publicité, cette intention mauvaise corrompt un acte qui pourtant en soi était bon. ou bien si vous faites des prouesses sportives en natation ou en ski, pour éblouir la femme ou le mari d'une personne qui vous intéresse, et pour la conquérir, pour la séduire, même si ski en soi n'est pas mauvais, au contraire, même si faire du sport c'est très bien, mais si vous faites des prouesses sportives afin de séduire une personne pour la détacher de son conjoint légitime et pour en faire votre amant ou votre amante, eh bien cette intention perverse rend mauvais un acte qui pourtant en soi était bon. Eh bien, les méthodes naturelles, si on les emploie systématiquement pour ne jamais avoir un enfant, pour exclure tout à fait d'en avoir un, et au lieu de recourir à la contraception, qui a beaucoup d'inconvénients hygiéniques et médicaux, et qu'on recourt toujours aux méthodes naturelles, bien, l'intention qui n'est pas bonne exclut radicalement toute naissance, rend mauvaise l'utilisation des méthodes naturelles. Alors, maintenant, bien voir l'enjeu essentiel. Et pas d'abord les enjeux périphériques. Souvent, on commence par les enjeux périphériques, parce qu'ils sont plus évidents, et je les mentionne. La contraception, très répandue dans nos sociétés, comporte de graves conséquences négatives périphériques. Par exemple, si on banalise le recours à la contraception, ça va entraîner inévitablement un certain relâchement des mœurs, parce qu'on va pouvoir se permettre d'avoir des rapports occasionnels. On ne se lie pas à une personne, mais on a l'occasion de faire l'amour, comme on dit, avec au terme d'une soirée, l'occasion se présente, eh bien, la contraception rend plus facile une vie relâchée, et même une vie débauchée. Elle rend plus facile la pratique de l'adultère, parce qu'on évitera plus facilement, en y recourant, d'avoir un enfant conçu hors mariage, ça va compliquer la vie. Donc, la contraception facilite une série de comportements relâchés. Elle entraîne également une certaine forme d'irresponsabilité chez l'homme, qui va dire à sa partenaire, il suffit que tu prennes la pilule, comme ça on sera tranquille. Une irresponsabilité féminine également. J'ai pris la pilule, donc je suis tranquille, pas de souci. On désamorce le sens de la responsabilité. On prédispose aussi, par la banalisation de la contraception, on prédispose à l'avortement, car si on a pratiqué des méthodes qui sont censées, c'est pas le cas, mais elles sont censées être efficaces à 100%, si jamais il y a un petit raté de la contraception, ce qui arrive régulièrement, il y a un petit pourcentage d'échecs, et puis alors, l'enfant conçu alors qu'il n'aurait absolument pas dû être conçu, il est presque immanquablement voué à l'avortement. Il n'aurait pas dû être là. Et s'il est passé vraiment entre les mailles, eh bien, il va l'expier. Il ne devait pas être là. On voit également comment la contraception va être utilisée politiquement. J'en ai déjà fait allusion, mais il y a de grands pays industriels qui ont peur que des pays du tiers-monde, par la grandeur, le poids de leur population, soient pour eux une concurrence économique à terme. Et alors on promeut dans ces pays pauvres ou émergents, on promeut la contraception et la stérilisation. Ce sont les pays riches qui en fournissent les moyens, qui les vendent, donc c'est tout profit pour eux, et en même temps, ça va faire en sorte que ces pays qui ont à terme un avenir économique ne soient pas trop nombreux et par là trop puissants dans la géopolitique de la planète. Et aussi, grand inconvénient, c'est qu'alors l'État s'immisce dans la vie des couples et on impose, l'État impose à des couples la stérilisation. Au Brésil, on a beaucoup connu ça, la stérilisation imposée aux femmes. On leur dit qu'on va leur faire une petite opération banale et en fait on les stérilise. Ou bien on promeut largement la contraception. Mais toutes ces objections ont leur poids, mais elles restent en quelque sorte à la périphérie. On ne réfléchit pas à l'enjeu central. De même, l'enjeu écologique est important, mais sur le plan moral, il reste en un sens marginal. L'enjeu écologique, je vise par là deux choses. C'est que, je vous l'ai déjà dit, mais et je lis ça dans la presse, il y a de plus en plus de femmes, ça reste un petit pourcentage, mais en croissance, qui en ont assez d'être pendant des années et des années et des années de leur vie sous contrôle hormonal. Ça comporte des inconvénients sur le plan du poids et surtout ça a des conséquences cardiovasculaires sur le plan du cancer. Avouez timidement, tout n'est pas encore dit sur ces questions, mais donc des femmes se préoccupent légitimement des retombées sur leur santé de l'utilisation de la contraception. Tandis que les hommes, eux, ne se font aucun souci, c'est pas eux qui la pratiquent pour eux, c'est, si je puis parler un peu vulgairement, c'est le tir en volonté, parce que eux, ils ne sont pas concernés par la contraception. Il y a aussi l'inquiétude de certains scientifiques, puisque toute cette énorme consommation de produits hormonaux, ça passe par l'urine dans les égouts, ça finit par déboucher dans les fleuves, et donc il y a des scientifiques qui prétendent qu'il y a actuellement beaucoup de malformations du monde des animaux qui vivent dans l'eau et qui deviennent stériles et que ça a des conséquences à long terme. C'est important, mais ce n'est pas l'enjeu moral central. L'enjeu moral qui occupe l'humanité n'est pas d'abord d'ordre écologique ou de l'ordre de la décadence morale, mais c'est dans l'objet même de la contraception, l'objet direct. Alors, l'enjeu central n'est pas, je crois qu'il faut y insister, d'ordre simplement biologique. Le vocabulaire utilisé par humanité est parfois un petit peu ambigu sur ce plan-là. J'ai déjà relevé une fois cette ambiguïté. Quand je dis que Dieu a sagement fixé des rythmes du corps féminin, un peu un Dieu gynécologue, bon. Mais aussi l'usage du mot artificiel, parce que quand on dénonce la contraception comme un moyen de régulation des naissances artificielles, mais un artifice n'est pas de choix mauvais. Mais notre vie humaine est vraiment humaine, est pleine d'artifices. Je suis en train de parler devant cet appareil, c'est pas naturel. Je suis en train d'être enregistré. Je ne sais même pas si j'ai poussé sur le bouton. Je ne sais plus. Oui, ça marche. Je suis en train d'être enregistré. C'est tout à fait artificiel, mais ça fait partie de notre culture. Mais la médecine, elle est artificielle. Et heureusement, prendre des médicaments quand vous êtes malade, c'est pas naturel, hein, ça ne pousse pas sur les arbres, les médicaments, c'est artificiel. Même les méthodes dites naturelles, elles sont d'un sens artificiel. C'est pas naturel de se prendre tous les matins la température. C'est pas naturel d'observer la glaire cervicale. C'est artificiel. C'est proprement humain. C'est culturel. Il y a peu de chats ou de chiennes qui observent quotidiennement l'état de leur glaire cervicale. Donc l'argument de artificiel n'est pas bon, c'est pas ça le véritable enjeu. Il s'agit d'un problème spirituel. Il s'agit de, à l'occasion d'une question qui a évidemment des aspects biologiques, les anges n'ont aucune préoccupation contraceptive, ni naturelle ni artificielle. C'est à l'occasion d'un problème qui a évidemment des aspects biologiques, nous sommes des hommes et des femmes incarnés, c'est l'attitude de la personne face au conjoint, face au mystère de la vie, face au don de Dieu. C'est ça l'enjeu de l'encyclique. C'est une attitude spirituelle, c'est pas de respecter simplement un cycle, c'est à l'occasion de ces questions d'ordre biologique, un enjeu vraiment spirituel. L'attitude de la personne, ou face au conjoint, l'attitude du couple face au lien très profond qu'il y a entre l'amour charnel, spirituel et charnel, et l'ouverture au don de la vie. Dans l'attitude contraceptive, je l'ai déjà dit un mot antérieurement, l'homme et la femme se place en quelque sorte au-dessus du lien qui relie amour et fécondité, union et procréation. On se comporte comme les seigneurs et maîtres de ce lien et on intervient activement pour déconnecter ce lien, pour avoir d'un côté l'amour sexuel et de l'autre côté, la question de la transmission de la vie. On déconnecte ce lien. Et c'est ce qui a envahi notre culture. Nous avons maintenant la possibilité, grâce à la contraception, d'avoir une sexualité qui tourne sur elle-même. On est très actif sexuellement, mais sans aucun rapport avec une quelconque transmission de la vie. Et inversement, nous sommes capables, par d'autres méthodes, nous sommes capables de reproduire la vie humaine indépendamment d'une rencontre sexuelle d'amour. Grâce à l'insémination artificielle, grâce à la procréation médicalement assistée, et grâce peut-être un jour, espérons que non, aux utérus artificiels, etc. Voilà l'enjeu central. Dans la contraception dite artificielle, mais j'aime pas trop ce mot, vous comprenez pourquoi, l'homme et la femme s'établissent au-dessus de ce lien profond et entendent le dominer à leur guise, en dissociant volontairement les deux significations de la sexualité, l'expression très intime de l'amour pour le conjoint, et d'autre part, l'ouverture au don de la vie. Et dans ce contexte, autre conséquence de ce comportement, c'est que les conjoints, les époux, oui, s'accueillent dans la rencontre sexuelle, ils s'accueillent mutuellement. Je suis à toi, tu es à moi. Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé. Comme dans le Cantique des Cantiques, mais toujours avec un refus. Je me donne à toi, mais tu attends de moi que tu sois préservé du geste inséminateur masculin, comme dans l'usage du préservatif. Tu es le bienvenu, à condition que tu aies cet objet en latex qui va empêcher à ta semence virile d'entrer dans mon corps. Ou bien, inversement, le mari dit à sa femme, tu es la bienvenue, mais à condition que tu sois sous hormone et que donc il n'y ait aucune chance, aucun risque de transmission de la vie. On reçoit l'autre, mais c'est un oui où il y a un refus. Un oui donné à l'autre, c'est la beauté de l'amour, c'est un oui mutuel. C'est un oui, mais qui s'accompagne d'un non. Non à ta semence, non à ton cycle, avec ses pics et ses avec ses hauts et ses bas. Il faut que tu mettes ça en ordre grâce à la pilule. L'autre attitude, celle des méthodes dites naturelles, c'est une attitude non pas de maîtrise, mais une attitude de gardien responsable. La responsabilité s'exprime non plus par la maîtrise, on déconnecte comme on veut les deux aspects de l'amour sexuel. Non, l'attitude est différente. Il s'agit ici de privilégier pour la rencontre sexuelle les moments où, peu nombreux, les jours assez peu nombreux, relativement peu nombreux, où la femme n'est pas féconde. Et on connaît ces moments. On ne s'affiche pas comme maître du lien spirituel entre amour et ouverture à la vie, mais on se comporte plutôt comme les ministres, les serviteurs avisés, intelligents de ce lien. Et quand c'est vraiment indiqué de ne pas avoir une naissance, eh bien, on aura des rapports seulement au moment où la femme n'est pas féconde et on aura pu déterminer les jours où elle n'est pas féconde. Et là, les deux époux s'accueillent sans réserve, en se respectant. La femme respecte le geste inséminateur de l'homme. Elle n'exige pas qu'il ait un préservatif pour être préservé, non. Et l'homme accepte la femme, mais en respectant ses rythmes propres, en respectant sa féminité. Le oui de l'amour mutuel s'accompagne aussi du oui donné à l'homme dans sa masculinité, à la femme dans sa féminité. Et cela comporte aussi de grands avantages sur le plan de l'entente dans le couple, c'est que dans les méthodes naturelles, il faut une concertation. L'homme doit apprendre à connaître le corps de sa femme. La femme doit apprendre à connaître son propre corps. Et il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux et qu'on se respecte. Tandis que dans la contraception, reconnaissons que même si elle était accueillie par beaucoup de femmes comme une libération pour éviter des grossesses indésirées, n'empêche que c'est quand même un esclavage à laquelle elle, la femme, est soumise. Tandis que dans les méthodes naturelles, moi j'ai entendu beaucoup de couples en témoigner, et c'est plus intéressant que le témoignage d'un évêque, beaucoup de couples qui témoignaient que ça avait uni, les avait unis profondément de se respecter mutuellement, de se connaître mutuellement. Et là, l'homme et la femme sont à part égale responsables. C'est pas seulement sur la femme qu'on se décharge. de la responsabilité. C'est les deux qui porteraient cette responsabilité. Ça suppose un dialogue, ça suppose une connaissance mutuelle. Et c'est vraiment plus humain. Alors que les ennemis d'humanité, à travers les morales que j'évoquais ce matin, les ennemis d'humanité ont cru pouvoir dénoncer le naturalisme de cette encyclique. On faut respecter le cycle biologique de la femme. C'est du physicisme, c'est du biologisme. Et au contraire, dans ces morales que j'évoquais ce matin, qu'est-ce qu'on fait pour gérer la fécondité? On se décharge sur du latex ou sur une pilule ou sur un patch. On se décharge de sa responsabilité sur un objet au lieu d'exercer une liberté responsable. On se décharge sur un objet, tandis que les couples qui pratiquent les méthodes dites naturelles exercent une vraie responsabilité humaine. Ils ne confient pas à une pilule la gestion de la fécondité, c'est eux-mêmes qui la gèrent avec leur engagement libre. Je prends maintenant le texte de l'encyclique. J'ai expliqué cela du mieux que j'ai pu dans un langage relativement simple. Maintenant, je pense que nous sommes à pied d'œuvre pour lire avec fruit les paragraphes 14 à 17. Nous avons encore un quart d'heure pour faire cela, et je pense que c'est possible. Humanévité, paragraphe 14. En conformité avec ces points fondamentaux de la conception humaine et chrétienne du mariage, qui ont été évoqués antérieurement, nous devons encore une fois déclarer qu'il est absolument à exclure, comme moyen licite de régulation des naissances, l'interruption directe du processus de génération déjà engagé. Et surtout, l'avortement directement voulu et procuré, même pour des raisons thérapeutiques. Donc par là, il est fait allusion, tout d'abord, par l'interruption directe du processus de génération déjà engagé, il est fait allusion à toutes les techniques abortives, précoces ou moins précoces, et surtout l'avortement directement voulu et procuré, même pour des raisons thérapeutiques. Il est peut-être fait allusion aussi, quand on parle du début du processus, à la technique du coït interrompu, où l'homme se retire juste avant l'éjaculation. Et pareillement à exclure, comme le magistère de l'Église l'a plusieurs fois déclaré, la stérilisation directe, qu'elle soit perpétuelle ou temporaire, tant chez l'homme que chez la femme. Est exclue également toute action qui soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Et là, ça vise toutes les techniques que j'ai évoquées depuis le préservatif jusqu'à la pilule à la fois contraceptive et abortive. Et on ne peut, je ne sais pas si votre édition de l'encyclique est meilleure que la mienne, mais il manque une négation dans mon texte. Si vous avez le texte, à la première ligne de la page 23, et on ne peut invoquer. Le « ne » s'y trouve ?
Et devant. Et « ne » on peut.
On ne peut.
Et « ne » on peut. On a le « ne » mal placé.
Eh bien, donc il faut lire « et on ne peut invoquer comme raison valable ». C'est ça. Et on ne peut invoquer comme raison valable pour justifier des actes conjugaux rendus intentionnellement inféconds le moindre mal ou le fait que ces actes constitueraient un tout avec les actes féconds qui ont précédé ou qui suivront et dont ils partageraient l'unique et identique bonté morale. Ouf. Voilà une phrase un peu longue que je vais commenter. On invoque parfois le moindre mal en disant si je ne prends pas la contraception, je risque d'avoir un enfant non désiré. Et donc je choisis le moindre mal. Je choisis avec ma femme, mais c'est la femme qui va le porter, de recourir à la contraception. C'est un moindre mal que d'avoir un enfant qui n'est pas du tout désirable dans la situation économique ou de santé où nous sommes. Mais le moindre mal n'est acceptable. On ne peut poser un acte mauvais en soi mauvais, mais le poser quand même parce qu'il est moindre qu'un autre mal, que s'il n'y a pas d'autre issue. Or, il y a une autre issue, qui est le recours aux méthodes non contraceptives, qui actuellement, en tout cas, ont une haute fiabilité égale à celle de la contraception. On ne peut pas invoquer ici le moindre mal dans le chef des personnes qui, dans le couple, cherchent à gérer leur fécondité, leur parenté. On ne peut pas invoquer non plus le fait que ces actes constitueraient un tout avec les actes féconds qui ont précédé ou qui suivront. Donc c'est ce qu'on avait appelé le principe de totalité. Les gens qui disent « globalement, nous avons voulu et voulons vivre une vie généreuse et nous sommes prêts à donner naissance à 3 enfants, à 4 enfants, mais pas plus. » Et donc la contraception est acceptable parce que elle rentre globalement dans une vie généreuse. Eh bien, on ne peut pas invoquer cela, dit l'encyclique. Il faut que toutes les rencontres conjugales, même si bien sûr elles n'aboutiront pas à une conception, mais qu'elles soient structurellement ouvertes à la procréation, qu'elles ne soient pas privées de leur signification par le recours à la contraception. En vérité, je poursuis, s'il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d'éviter un mal plus grand ou de promouvoir un bien plus grand, il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien. Donc, jamais sur le plan individuel, nous ne pouvons poser un acte mauvais pour qu'il en résulte un bien. Par contre, sur un plan plus large, familial, un plan de société, on peut parfois tolérer chez autrui, tolérer un moindre mal moral afin d'éviter un mal plus grand. Par exemple, il y a pas mal d'États qui, dans leur législation, jugent qu'il est préférable de tolérer la prostitution en l'encadrant que de la prohiber radicalement, parce que ça va engendrer une prostitution clandestine plus grave que la prostitution encadrés dans des maisons de tolérance, comme on disait jadis. Donc, il y a des États qui raisonnent comme ça, et peut-être bien qu'ils ont raison de pas approuver la prostitution, mais on la tolère, on l'encadre, on la surveille, tandis que si on la proscrit radicalement, on la poursuit, on la dépiste, on va engendrer une prostitution très clandestine où là, il y aura les pires abus. Il y a aussi des États qui raisonnent comme ça à propos de la drogue, en disant il vaut mieux tolérer un certain usage de la drogue et le surveiller et l'encadrer, plutôt que de la prohiber radicalement, car alors on va encourager un commerce tout à fait clandestin, tout à fait sauvage encore pire. Eh bien, non, je prends maintenant un exemple qui nous concerne. Il y a des familles qui, quand elles voient que leurs enfants n'ont pas tout à fait la même morale qu'eux, leurs enfants, malgré l'éducation qu'on leur a donnée, sont volages parce qu'on a... Et ils sont volages parce que, grâce à la contraception, on peut avoir des relations sans risque. Alors, parfois, les parents se disent, oui, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que nous tolérions cela, l'usage de la contraception, plutôt que de voir nos enfants, si nous la leur interdisons de manière draconienne, la fille va se retrouver enceinte et il y aura alors la tentation presque inévitable de l'avortement. Et là, il ne s'agit pas de soi-même commettre un mal en vue d'un bien, ce qui n'est jamais permis, mais on tolère chez autrui un mal qui sera moindre qu'un autre mal qui va se produire quasi inévitablement si on n'a pas toléré l'autre, le moindre mal. C'est ce que signifie le texte ici. En vérité, s'il est parfois licite de tolérer dans la société ou en autrui ou dans la famille un moindre mal moral afin d'éviter un mal plus grand ou de promouvoir un bien plus grand, il n'est pas permis, même pour des raisons très graves, de faire personnellement le mal afin qu'il en résulte un bien. C'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et par conséquent une chose indigne de la personne humaine, même avec l'intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. Autrement dit, concrètement, s'il est vrai que la, et c'est la thèse de l'encyclique, que la contraception est un comportement intrinsèquement négatif, parce qu'il dissocie à volonté les deux aspects essentiels de l'amour conjugal, alors on ne peut pas poser cet acte, la contraception, même si c'est avec l'intention, en soi bonne, de préserver la santé, de sauvegarder l'équilibre de la famille. On ne peut jamais faire le mal pour qu'il en résulte un bien. C'est ce que signifie l'adage « la fin ne justifie pas les moyens ». Une bonne fin ne justifie jamais un acte en soi négatif. Paragraphe 15. L'Église, en revanche, n'estime nullement illicite l'usage des moyens thérapeutiques vraiment nécessaires pour soigner des maladies de l'organisme, même si l'on prévoit qu'il en résultera un empêchement à la procréation, pourvu que cet empêchement ne soit pas, pour quelque motif que ce soit, directement voulu. Donc c'est ce qu'on appelle en morale, je vous apprends beaucoup de notions en morale peut-être aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'acte à double effet. Il y a un acte que l'on peut poser, que l'on voudrait poser, et qui a deux effets. Il a un effet bon, mais il s'accompagne aussi d'un effet négatif. Peut-on poser cet acte bon qui va avoir aussi comme corollaire, comme conséquence, un effet négatif? Bien, la réponse que donne la morale, c'est que une morale philosophique suffit pour dire cela. On peut poser cet acte à condition qu'on ne veuille pas l'effet négatif pour lui-même, mais que simplement on le tolère, et il faut aussi que l'effet négatif ne résulte pas plus directement de l'acte posé que l'effet bon que l'on poursuit. Je donne un exemple. Est-ce que une mère de famille peut prendre de grands risques pour sa santé, pour s'occuper activement d'un enfant malade ou bien de ses parents malades, Est-ce qu'elle peut prendre un grand risque pour sa santé en posant cet acte généreux? Eh bien, la réponse est oui, à condition que, en se dépensant, en écourtant ses nuits, en travaillant plus que normalement, elle ne cherche pas l'effet négatif, par une sorte d'instinct suicidaire. Non, elle poursuit l'effet bon, et elle tolère qu'il y ait un effet négatif. Et l'effet négatif ne résulte pas plus directement de ce qu'elle fait que l'effet positif. Si elle travaille à soigner son enfant ou ses parents, le premier résultat de ce qu'elle fait, c'est l'amélioration de la santé de son enfant ou de ses parents. Eh bien, ici, est-ce que pour soigner un cancer qui commence, est-ce qu'une femme peut prendre une médication qui va avoir comme conséquence qu'elle sera, à cause de ce traitement, inapte à la procréation? Elle sera rendue stérile pendant tout le temps du traitement. Eh bien, oui, elle peut poser cet acte à double effet. Elle cherche l'effet bon, et l'effet négatif, elle ne le cherche pas pour lui-même. C'est une conséquence qu'elle tolère, mais elle recherche d'abord l'effet positif, l'effet bon, à savoir se préserver de la prolifération d'un cancer. C'est très fréquent dans la vie, la question de l'acte à double effet. Je pense qu'on y est presque quotidiennement confronté. Vous êtes sensible à l'alcool. Il y a une fête familiale. Si vous prenez quelques verres pour participer à la joie familiale, ça va peut-être vous entraîner quelques problèmes. Vous aurez mal au foie pendant un jour ou deux. Bien, vous pouvez tolérer cet effet négatif à cause de l'effet bon, qui n'est pas purement de boire de l'alcool, mais qui est participer joyeusement à une fête. Que les gens qui boivent toujours de l'eau, c'est pas toujours réjouissant dans... Bon, je prends un exemple banal, mais il y en a bien, bien d'autres. 16. À cet enseignement, l'Église sur la morale conjugale, on objecte aujourd'hui, comme nous l'observions plus haut, au paragraphe 3, que c'est la prérogative de l'intelligence humaine de maîtriser les énergies offertes par la nature irrationnelle et de les orienter vers un but conforme au bien de l'homme. Or, certains se demandent, dans le cas présent, n'est-il pas raisonnable, en bien des circonstances, de recourir au contrôle artificiel, contraceptif des naissances, si on obtient par là l'harmonie et la tranquillité du foyer et de meilleures conditions pour l'éducation des enfants déjà nés? À cette question, il faut répondre avec clarté. L'Église est la première à louer et à recommander l'intervention de l'intelligence dans une œuvre qui associe de si près la créature raisonnable à son Créateur. Mais elle affirme que cela doit se faire dans le respect de l'ordre établi par Dieu. Si donc, il existe, pour espacer les naissances, de sérieux motifs, dus soit aux conditions physiques ou psychologiques des conjoints, soit dans les circonstances extérieures, l'Église enseigne qu'il est alors permis de tenir compte des rythmes naturels inhérents aux fonctions de la génération pour user du mariage dans les seules périodes infécondes et régler ainsi la natalité sans porter atteinte aux principes moraux que nous venons de rappeler. Et de fait, on y fait appel à l'intelligence, on y fait appel à la raison humaine, on y fait appel à quelque chose dans un sens artificiel, car les méthodes naturelles impliquent certains artifices, thermomètres, mesures, observations. L'Église est conséquente avec elle-même quand elle estime licite le recours aux périodes infécondes, alors qu'elle condamne comme toujours illicite, intrinsèquement illicite, l'usage des moyens directement contraires à la fécondation, donc la contraception, même inspirée par des raisons qui peuvent paraître honnêtes et sérieuses. En réalité, il existe entre les deux cas une différence essentielle que je vous ai expliquée antérieurement, qui je pense ce sera lumineux en entendant dire par le pape Paul VI. Dans le premier cas, les conjoints usent légitimement d'une disposition naturelle. Dans l'autre cas, ils empêchent le déroulement des processus naturels. Il est vrai que dans l'un et l'autre cas, les conjoints s'accordent dans la volonté positive d'éviter l'enfant pour des raisons plausibles, en cherchant à avoir l'assurance qu'il ne viendra pas. Mais il est vrai aussi que dans le premier cas seulement, ils savent renoncer à l'usage du mariage dans les périodes fécondes, quand pour de justes motifs la procréation n'est pas désirable, et en user dans les périodes agénésiques. C'est du grec pour dire inféconde, les périodes agénésiques comme manifestation d'affection et sauvegarde de mutuelle fidélité. Ce faisant, il donne la preuve d'un amour vraiment et intégralement honnête. C'est très clair, sauf que le pape emploie ici deux fois l'expression disposition naturelle, processus naturel, qui devrait être clarifié. Qu'est-ce qu'on entend par naturel ? Est-ce que c'est seulement les rythmes biologiques ? Mais là, Jean-Paul II a fait faire des progrès à la doctrine de l'Église en évitant ce langage. Mais je termine maintenant. Le paragraphe 17, je le reprendrai demain. Et surtout, demain, ce sera donc la 8e causerie. Je m'expliquerai longuement sur un plan philosophique sur cette question du mot « nature » qui a été la pierre d'achoppement. C'est dommage que Paul VI, à l'époque il n'avait pas encore les instruments philosophiques pour le faire, n'ait pas clarifié le sens où il parlait de loi naturelle et de méthode naturelle. Et ça a été une des raisons de l'incompréhension. Et aujourd'hui nous pouvons, avec Jean-Paul II, améliorer son langage. Et c'est ce que je tenterai de faire demain avec vous, en lisant le paragraphe 17, et puis en vous parlant assez longuement du sens du mot « nature » en philosophie.